tout de suite sur cette tragédie aérienne en Iran, la thèse du tir de missile accidentel pour expliquer le crash du Boeing 737 de la Ukrainian International Airlines il y a 36 heures à Téhéran est de plus en plus plausible. Il y a maintenant des images qui ont fait surface. On peut les voir sur le site du New York Times, on peut les voir sur les chaînes d'information continue, où on peut voir l'avion dans la nuit de Téhéran, au loin, s'enflammer et s'écraser quelques secondes plus tard dans une puissante explosion très lumineuse. Donc, voici ce qu'on sait là, à 16h11, 36 heures environ après les faits. D'abord, il y a le premier ministre canadien, Justin Trudeau. On sait qu'il y a une soixantaine de Canadiens qui étaient à bord de l'avion. Sont tous morts, évidemment, qui citent des sources du renseignement canadien et des sources du renseignement des alliés du Canada pour accréditer la thèse du tir de missile anti-aérien iranien. Il y a l'arrêt brutal de transmission du transpondeur de l'avion qui est cohérent avec une explosion catastrophique du type causée par un missile qui aurait désintégré l'avion en vol. Il y a aussi le fait que les Iraniens refusent de laisser les Américains décrypter les boîtes noires de l'avion, même si l'avion est américain, on sait qu'il a été fabriqué par Boeing. Et il y a aussi, pas oublier ça, les Iraniens commencent à dire des sottises pour expliquer la tragédie. Et par sottise, ce que je veux dire, là, il y a un officiel iranien qui vient de dire, il y a quelques heures, qu'il est impossible que l'avion ait été frappé par un missile. Pourquoi? Parce que les missiles de batterie anti-aérienne ne peuvent pas atteindre des cibles à 8000 pieds. Et là, évidemment, Twitter faisant son œuvre, il y a des experts qui disent non, les missiles anti-aériens qui sont destinés à frapper des avions de chasse peuvent aller deux fois plus haut. Et écoutez, c'est pas la première fois que des pays sont embarrassés parce que leurs militaires ont abattu par erreur des avions civils comme ça. C'est arrivé aux Soviétiques en 83, c'est arrivé aux Russes en 2014, c'est arrivé aux Américains en 88 qui ont abattu par erreur un avion civil iranien. Et ce qu'on a vu dans le cas des Soviétiques, ce qu'on a vu dans le cas des Russes, ce qu'on a vu dans le cas des Américains, c'est que dans les premières heures, ce qu'on dit, c'est « Ah, ça se peut pas, c'est pas nous autres, c'est une erreur, il y a eu un problème dans l'avion, c'est pas nous qui avons fait ça. » Donc, ce que les Iraniens font, c'est tout à fait cohérent avec ce que les Soviétiques ont fait. C'est tout à fait cohérent avec ce que les Américains ont fait en 88 aux premières heures de la tragédie causée par le USS Vincennes dans le golfe Persique. Écoutez, on va aller parler de cette tragédie-là avec quelqu'un qui s'y connaît, qui en connaît un très long bout en matière d'aviation civile. C'est probablement un des plus grands amants de l'aviation, et j'ai nommé Paul Oud, notre ami Paul Oud, qui est au bout du fil. Salut, Paul.
Salut, Patrick.
Donc, Paul, qu'est-ce qui te frappe d'abord dans cette tragédie-là en particulier, là, sans mauvais jeu de mots?
Ce que tu viens de dire, et je vais ajouter une coche, la réaction des autorités iraniennes, qui ne trompent pas, ça ressemble beaucoup à la réaction des Soviétiques lors de la tragédie du Boeing 747 de Korean Airlines en 1983. Et j'ajouterais à ce que tu as dit, les Américains, lors de la méprise épouvantable qui avait causé la mort de 290 Iraniens dans un vol civil, un missile qui avait été tiré par le croiseur américain USS Vincennes. Mais je te ramène plus près. En 2014, le 17 juillet, rappelle-toi l'avion de Malaysia qui effectuait la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur en Malaisie et qui a été abattu par un missile Buk de fabrication russe. Les enquêtes, très complexes, très difficiles d'ailleurs à faire, ont démontré qu'il n'y avait aucun doute, le missile provenait de la 53e brigade anti-aérienne de l'armée russe. Et bien aujourd'hui, 5 ans plus tard, Vladimir Poutine et les Russes disent « ce n'était pas nous, ce n'était pas les rebelles pro-russe en Ukraine. » Alors, tu vois que ça peut être extrêmement long avant qu'on passe aux aveux. Les Soviétiques, à l'époque, ont pris 8 ans à remettre les boîtes noires. Alors, j'écoutais M. Trudeau cet après-midi dire « c'est très important qu'on puisse avoir une enquête internationale, c'est très important qu'on puisse avoir accès à une enquête qui permettrait, via les boîtes noires, d'en savoir plus long. » Ne comptez pas que ça va se faire rapidement. Il a fallu 8 ans et le démantèlement de l'Union soviétique pour que les boîtes noires du 747 de Korean Airlines soient remises et diffusée aux autorités internationales.
Paul, tu t'y connais très tu t'y connais très bien en matière d'aviation internationale. On connaît ta passion pour les avions. Moi, j'ai de mémoire, là, j'ai fouillé dans le tiroir de ma mémoire, j'ai relevé 4 tragédies aériennes. Je les ai nommées tantôt, là. Est-ce que j'en oublie? Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des tragédies aériennes comme ça, causées par des opérations militaires?
Tu vas peut-être être surpris, mais j'ai fait une liste remise à jour avec ce qui semble être, encore une fois, un incident impliquant une méprise ou à tout le moins une action militaire contre un avion civil. Depuis 1930, dans l'histoire de l'Organisation civile internationale, c'est le 34e incident du genre qui implique qu'un appareil civil, donc un appareil commercial, a été abattu par des armes de provenance militaire.
OK. Paul, on connaît ta passion là, pour l'aviation. Il y a des sites très spécialisés comme Flight Radar, Flight 24, qui peuvent suivre en temps réel, et c'est absolument fascinant, là, par application ou par des sites web, la trajectoire des avions. J'imagine que quand c'est arrivé cette tragédie-là du Boeing ukrainien, j'imagine que tu es allé consulter ces sites-là.
Bien évidemment, parce que dès qu'on a appris, qu'on a eu un flash qui est apparu sur les réseaux, sur l'Internet, qu'un avion venait de disparaître après un décollage à Téhéran, je me suis dit, mais c'est 4 heures à peine après l'opération militaire iranienne contre les 2 bases américaines en Irak. Alors, je me suis rendu sur Flight Radar 24 et on est capable de rejouer l'histoire d'un vol. Et donc, en insérant tout simplement dans la recherche PS-752, le numéro du vol du 737 d'Ukraine, j'ai pu voir qu'il avait décollé sur l'une des 2 pistes 29 de l'aéroport international Imam Khomeini, qui est un aéroport d'ailleurs très récent. C'est maintenant devenu leur grand aéroport international, parce qu'avant, tu atterrissais à Mehrabad, un peu au nord, qui opère maintenant les vols domestiques. Et on a pu donc revoir, sur Flight Radar 24, l'avion aller en bout de piste de la piste 29, décoller en direction nord-ouest et s'arrêter à 7400 pieds, selon Flight Radar. Donc, il y avait eu un événement catastrophique qui s'était produit et que l'avion, évidemment, n'avançait plus, ne décollait plus, ne faisait pas sa trajectoire prévue.
Paul, les experts en aviation ont souligné l'anormalité du fait que le transpondeur a cessé brutalement en vol d'émettre. Explique-nous comment ça fonctionne un transpondeur et c'est quoi l'importance pour les données de vol?
C'est extrêmement important. Je dirais que le transpondeur est aussi important que les fameuses boîtes noires, qui, soit dit en passant, ne sont pas noires, mais de couleur orange ou rouge dans certains cas. Oui, bien sûr que les boîtes noires permettent d'obtenir des données de vol très précises et, au demeurant, des conversations entre l'équipage et le ou les tours de contrôle. Mais le transpondeur, c'est ce qui donne la position aux contrôleurs aériens régionaux et internationaux des données de vol en tout temps de l'appareil. C'est un peu comme un GPS, mais qui te donne également l'altitude, la vitesse de déplacement de l'avion, la direction de déplacement de l'avion. Donc, quand un appareil, son transpondeur ne fonctionne plus, il y a immédiatement une alerte chez les contrôleurs aériens. Je te donne un exemple. Remontant au 11 septembre 2001, ce qui a été la première véritable alerte qui se passait quelque chose avec des appareils commerciaux américains, c'est que les transpondeurs des 2 appareils d'American Airlines et de United ont soudainement cessé de fonctionner. Et si le transpondeur cesse de fonctionner, le contrôleur aérien a peut-être d'autres moyens, mais il devient presque aveugle. Il se demande qu'est-ce qui arrive avec ce vol que je suivais et que je ne suis pas capable de suivre. Extrêmement important, le transpondeur qui permet d'identifier en tout temps l'appareil.
Paul, ce matin-là là, de l'aéroport Khomeini, à 6h20, le Boeing de Ukrainian International Airlines décolle. Est-ce qu'il y en avait d'autres avant qui étaient partis de cet aéroport-là?
C'est intéressant parce que je suis allé voir à peu près une demi-heure après l'écrasement. et je me suis posé la même question. Est-ce qu'on opérait normalement à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran? Ben, la réponse à ta question est simple. Il a été le premier à décoller ce matin-là. C'est-à-dire que dans la nuit, il y a peut-être eu d'autres vols, mais il était le premier sur la liste des compagnies aériennes qui décollaient à ce moment-là de Téhéran. Quelques heures plus tard, ça c'est très important, 4 heures après l'attaque sur les 2 bases américaines, il était le numéro 1 en bout de piste.
Donc, on peut penser, OK, puis là, on est dans la spéculation, là, mais je pense que ça demeure du domaine du possible, Paul. C'est un climat de tension extrême à ce moment-là. Tu l'as dit, là, 4 heures plus tard, c'est l'attaque sur la base américaine, sur les bases américaines, c'est ça? Et là, évidemment, les Iraniens ont des batteries de missiles anti-aériens au cas où ils seraient attaqués. Il est possible que cet avion-là, qui part, est le seul avion dans le ciel à ce moment-là. Ben, les batteries anti-aériennes l'ont confondu avec un appareil américain, un appareil militaire.
Pour répondre à ta question, je peux te dire que si Flight Radar 24, et on peut s'y fier, là, c'était le seul appareil commercial ou identifié qui était en activité à l'un des 2 aéroports, que ce soit l'ancien aéroport de Behrabad ou de Imam Khomeini. Donc, c'était le seul appareil. On a déjà une première réponse. Maintenant, l'autre aspect, c'est que les Américains ne disent pas tout en ce moment. Je ne sais pas si tu as remarqué, réaction très réservée de la part du président Trump. Il a dit, je ne sais pas trop, je pense que peut-être ils ont fait une erreur. C'est que les Américains en ont fait une terrible en juillet 88, quand le commandant du croiseur USS Vincennes a confondu un F-14 Tomcat iranien avec un Airbus A-300 où il y avait 290 personnes à bord. Les Américains se sont jamais excusés et le vice-président de l'époque, qui était le père Bush, avait dit « Les États-Unis ne donneront jamais d'excuses de toute façon ». Mais c'était une erreur effroyable. Il est mort 290 personnes qui étaient complètement innocentes, même s'il y avait énormément de tensions dans la région, et qui effectuaient un vol entre Bandar Abbas et Dubaï, un petit vol d'une demi-heure. Donc, tu vois, ce que tu viens de dire est extrêmement important. La tension est tellement vive en ce moment dans la région du Golfe Persique également. Les Iraniens étaient sous très haute alerte parce qu'ils ne savaient pas comment les Américains allaient réagir. Le président américain ne ferait pas sa déclaration qu'avant le lendemain matin. Donc, moi, je pense que la thèse d'une erreur, mais effectivement d'un missile qui a battu cet appareil-là, est la meilleure pour le moment. Et les Américains le savent probablement parce que chaque fois qu'un missile est tiré dans le monde, les nations qui ont les ressources pour le faire sont capables de voir la trace de chaleur du missile. Les Américains le savent déjà. Sauf que il est hors de toute logique de penser que c'était une attaque volontaire, coordonnée. Pourquoi les Iraniens, 4 heures après avoir fait une opération militaire risquée contre 2 bases américaines, iraient abattre un avion commercial? Ils n'ont rien à gagner de faire ça. Donc, c'est pour ça que moi, modestement, là, je pense qu'après avoir réuni tous ces éléments-là, je pense qu'il y a eu une erreur effroyable.
Merci beaucoup, Paul. Toujours aussi plaisant de te parler, toujours aussi fascinant de t'entendre parler d'aviation. Merci, c'est extrêmement éclairant.
De rien.
Merci. 16h25, au retour, c'est Philippe Quentin.